Bon réveil à vous tous, il est 6h.
C'est une revendication de plus en plus forte. Généralement, les employeurs arrivent en négociation en ne mentionnant pas le remboursement des frais dans les projets d'accord. Donc, c'est quelque chose sur lequel les négociateurs doivent batailler.
Le télétravail entraîne des coûts supplémentaires et ce sont les entreprises qui doivent les prendre en charge, mais pas sûr que toutes jouent vraiment le jeu. Dans ce journal, le Brésil qui perd le contrôle de l'épidémie de coronavirus. Une centaine de mutations du virus circulent actuellement dans le pays. Haïti, gangréné par les gangs. Une enquête est ouverte après l'enlèvement de deux Français sur cette île des Caraïbes. Et puis c'est l'information de la nuit, le Japon va rejeter à la mer plus d'un million de tonnes d'eau issues de la centrale nucléaire Fukushima.
À suivre les sports, le PSG va-t-il réaliser l'exploit? Match retour, quart de finale de Ligue des Champions ce soir au Parc des Princes contre le Bayern. Soirée spéciale sur Europe 1, le journal des sports à suivre. Et puis avec mon invité inattendu, Kawax sur mot compte triple. Oui, non, ça n'existe pas, mais ça fait des points au Scrabble. C'est la journée mondiale de ce jeu culte. Vous avez reconnu le sketch, bien sûr, d'un certain Pierre Palmade. Rendez-vous à 6h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le télétravail, on le sait, doit être appliqué au maximum partout où c'est possible, mais cela suscite des frais supplémentaires pour les salariés obligés de travailler chez eux. Le chauffage et l'électricité, par exemple, les abonnements Internet, les fournitures de bureaux. Alors qu'en est-il de la prise en charge par les entreprises? La plupart du temps, les accords de télétravail prévoient des systèmes de défraiement. Olivier Samin.
Il y a les entreprises pingres qui disent « à quoi bon vous indemniser puisque le télétravail s'appuie sur le volontariat ?» Sauf qu'en ce moment, l'argument a du mal à tenir. Et il y a les entreprises plus généreuses qui ont conclu des accords récents prévoyant la plupart du temps une somme forfaitaire exonérée de cotisations. Chez l'assureur Allianz, par exemple, c'est entre 10 et 50 euros par mois. Chez Accenture, c'est un peu moins, 35 euros, pour ceux qui travaillent chez eux au moins 4 jours par semaine. 35 euros parce que le chauffage, l'électricité, l'abonnement Internet sont pris en charge, oui, mais pas les cartouches d'encre, ni les ramettes de papier, protection de la planète oblige. Pas mal, reconnaît Jérôme Chemin, secrétaire général adjoint de la CFDT cadre, mais, dit-il, il faut quand même se battre dans les négociations.
Généralement, les employeurs arrivent en négociation en ne mentionnant pas le remboursement des frais dans les projets d'accord, donc c'est quelque chose sur lequel les négociateurs doivent batailler, d'autant que c'est une revendication de plus en plus forte, puisqu'aujourd'hui, le télétravail concerne toutes les populations de l'entreprise, par rapport aux accords que nous avions avant sur le télétravail, qui concernaient principalement les cadres, et c'est un nombre moins important de jours de télétravail.
Ce qu'il faudra maintenant regardez, dit la CFDT cadre, c'est le partage de la valeur au vu des bénéfices que les entreprises vont pouvoir tirer de la réduction du nombre de leurs mètres carrés de bureau.
Les précisions d'Olivier Samin.
On vous en parlait hier, la vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 55 ans avec dans un premier temps les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson.
L'AstraZeneca qui n'en finit pas d'être dans la tourmente. En Moselle, les autorités de santé n'en veulent plus. Le département est débordé par les variants du virus. Le président de l'ordre local des médecins, Laurent Dapp, réclame les vaccins Pfizer et Moderna jugés plus efficaces. Il a d'ailleurs écrit au ministre de la Santé pour obtenir du 100% ARN messager.
On a ce variant de façon importante que l'AstraZeneca étant peu efficace contre lui, qu'on se dit mais c'est pas logique de vacciner les gens avec un résultat qui est susceptible de pas être efficient. Il y aurait encore un problème de logistique important, mais là, un seul département est touché. On peut très bien demander à rapatrier l'AstraZeneca dans d'autres départements et nous privilégier les ARN messagers, à savoir le Moderna et le Pfizer. Je trouve que les Mosellans, depuis un an, n'ont pas été épargnés par cette épidémie. Je pense qu'on aurait quand même pu prendre en considération cette recommandation. Tout le monde est inquiet.
Laurent Dapp, président de l'Ordre des médecins de la Moselle, avec Arthur Mbaché.
On évoquait les variants qui circulent notamment en Moselle au niveau mondial. C'est d'une autre ampleur. L'OMS tire la sonnette d'alarme sur la situation au Brésil. Et le virus aura bientôt fait 3 millions de morts sur la planète, selon les données officielles, dont un tiers en Europe.
Et au Brésil, vous en parliez, les scientifiques sont totalement dépassés face à la prolifération du variant local, ou plutôt des variants locaux. Car en réalité, il n'y a pas qu'un seul variant brésilien, mais une centaine. Marine Audacher, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Sao Paulo et vous nous le dites ici, la situation est particulièrement alarmante à cause de ces nombreuses mutations.
Oui, la situation est devenue totalement ingérable avec ces variants très difficiles à cerner. Les cimetières débordés, les enterrements nuit et jour, le nombre de morts qui augmente. Et pourtant, il est de plus en plus difficile de convaincre les gens de rester confinés, comme l'explique le docteur Vasconcelos, infectiologue à São Paulo.
Quand vous entendez 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts par jour, les gens ont fini par s'habituer à ce décompte macabre. Je pense même que si une étude confirme que le variant est plus mortel, ça ne leur fait rien. Les gens sont anesthésiés, vous comprenez ?
Anesthésiés et complètement perdus car il n'existe aucune politique commune entre le président Bolsonaro, les gouverneurs et les maires. São Paulo vient de rouvrir les écoles, une décision incompréhensible pour beaucoup de parents au pire moment de la pandémie. C'est ce que pense ce père de famille en télétravail depuis un an avec ses trois enfants.
C'est irresponsable de les envoyer à l'école pour le moment. La majorité des patients intubés ont moins de 40 ans. Avant, on se disait, bon, mieux vaut rester à la maison. Aujourd'hui, je reste chez moi pour sauver ma peau. J'ai peur, vraiment. Si j'ai besoin d'être hospitalisé, il n'y a plus de lit en soins intensifs. Il faut rester calme et être très patient.
Environ 10% des 212 millions de Brésiliens ont reçu au moins une dose de vaccin. Qu'il soit efficace ou non contre les variants, la priorité reste d'accélérer la vaccination et d'appliquer les gestes barrières.
Marine Audacher en ligne du Brésil pour Europe 1.
Et cette situation au Brésil pose des questions en France, parce qu'il y a toujours des vols entre le Brésil et la France. On en parlait à 5h30. Dans une petite demi-heure maintenant, le regard du virologue Jean-Michel Pavlovski, qui sera mon invité. Il travaille à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il nous dira s'il faut s'inquiéter de cette situation au Brésil pour le monde et pour la France.
Des nouvelles rassurantes en revanche à propos du variant britannique du virus. Selon deux études publiées aujourd'hui, il n'entraînerait pas plus de formes graves du Covid, mais il reste bien plus contagieux que les souches précédentes.
Il est 6h07 sur Europe 1. Alors que les doutes grandissent autour du déroulement du bac, Jean-Michel Blanquer a tenu à rassurer les lycéens.
Le ministre de l'Éducation était en visite à Toulouse hier et il défend la nouvelle épreuve du grand oral. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander sa suppression. Virginie Riva.
C'est l'épreuve phare de la réforme du bac de Jean-Michel Blanquer, le grand oral, rite de passage pour préparer aux études supérieures. Mais tous les syndicats demandent sa suppression, notamment parce qu'elle n'a pas pu être bien préparée en raison du contexte sanitaire. L'une des solutions envisagées, imaginez un coefficient un peu plus bas de 5% au lieu de 10 pour ne pas que la note compte trop dans la note finale. Mais d'autres options sont aussi sur la table, comme l'aménagement de l'épreuve en elle-même. L'étudiant pourrait ne plus être interrogé dans la deuxième partie sur tout le programme, comme prévu initialement. Il y a des discussions dans le cadre du comité de suivi du bac, confirme la rue de Grenelle, mais ça reste une épreuve importante, nous dit-on. Le gouvernement a théoriquement jusqu'au 1er juin pour décider, soit 15 jours avant le début des épreuves. Reste à trancher aussi pour le bac français et l'épreuve de philo.
Virginie Riva en charge des questions d'éducation sur Europe 1. La piste du règlement de compte privilégié au lendemain de la fusillade qui a fait un mort et une blessée grave en plein cœur de Paris. Un homme a tiré sur deux personnes devant un hôpital du 16e arrondissement avant de prendre la fuite. La victime était défavorablement connue de la justice.
À l'étranger, Paris ouvre une enquête après le kidnapping de deux religieux français en Haïti.
Enquête pour enlèvement et séquestration en bande organisée. Les ravisseurs demandent une rançon d'1 million d'euros. Un phénomène malheureusement très répandu dans le pays où les gangs sèment la terreur. L'année dernière, plus de 1200 personnes ont été enlevées sur place. Jean-Sébastien Soldaini.
L'enlèvement est un business à Port-au-Prince, si bien qu'Arnold, réalisateur de films, évoque un commerce de gros et de détails. Comprendre, tout le monde peut être ciblé, quelle que soit la classe sociale, alors il sort de chez lui en rasant les murs.
D'abord, je ne me promène jamais. Et quand je suis obligé de sortir, où l'on conduit la voiture en regardant dans tous les rétroviseurs possibles, dès que quelqu'un s'approche, si je remarque que c'est la même voiture qu'il y a derrière moi, au cours d'un kilomètre, je change de route.
Il rappelle qu'il y a quelques jours, le fils d'une vendeuse de cacahuètes a été kidnappé. Sa maman n'avait pas les moyens de payer. L'enfant de 5 ans a été pendu. Jean-Marie Théoda, maître de conférence à l'Université d'État de Port-au-Prince, souligne que dans un pays aussi pauvre, chaque vie prend de la valeur.
En enlevant une personne, vous êtes capable de tirer au moins de quoi vivre pour la semaine, parce que ce sont des rançons qui atteignent au maximum, cela se chiffre en centaines d'euros.
La majorité de ces gangs sont constitués par de jeunes hommes de moins de 20 ans désœuvrés. Ils agissent bien souvent avec la complicité de certains policiers qui leur fournissent armes de gros calibre et protection.
Aux États-Unis, un couvre-feu décrété à Minneapolis après la mort d'un jeune afro-américain de 20 ans tué par balle par une policière. Elle aurait confondu son arme avec son taser. Joe Biden déplore une mort tragique et lance un appel au calme.
Nous allons à présent au Japon où le gouvernement vient de prendre une décision qui suscite un tollé.
Et Tokyo s'apprête à rejeter 1 million de tonnes d'eau provenant de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. La raison invoquée, il n'y a plus de place pour les stocker. Bernard Delattre.
1 million de tonnes d'eau, c'est l'équivalent de 500 piscines olympiques. Sauf que depuis l'accident de mars 2011, ces eaux-là sont entrées en contact avec les 900 tonnes de combustible atomique qui s'entassent toujours dans les réacteurs de la centrale de Fukushima et qui, 10 ans plus tard, restent hautement radioactifs. Ces eaux ont été décontaminées, on les a nettoyées de la plupart des isotopes radioactifs qu'elles contenaient, mais il en reste un, le tritium, qu'on ne parvient pas à extraire. Et selon Greenpeace, on y trouve toujours aussi du carbone 14. D'après le gouvernement japonais, ces radionucléides ne sont pas très dangereux. Et vu l'immensité de l'océan, ça ne posera pas de problème. Le taux de radioactivité de l'eau de mer restera conforme aux normes internationales. À Fukushima, les pêcheurs et les commerçants des stations balnéaires sont furieux et très inquiets. Quel consommateur va risquer de se retrouver avec du poisson au tritium dans son assiette? Et quel touriste va oser aller se baigner dans un océan où on a déversé des eaux en partie seulement décontaminées? Bref, personne n'en doute, à Fukushima, cette décision aura un impact catastrophique sur l'économie locale. Tokyo, Bernard Delattre, Europe 1.
Et on retrouvera Bernard Delattre tout à l'heure au Japon dans la revue de presse internationale pour parler cette fois de la vaccination qui s'engage sur place. C'était le journal de Sophie Echen, il est 6h11. Lénaïque Meunier pour le journal des sports et à la une, bien, c'est soir de match. Et quel match? Paris reçoit le Bayern Munich.
Pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions, et Paris a fait le gros du travail en gagnant 3-2 au match aller à Munich. Alors le Paris Saint-Germain est-il capable d'accrocher sa place en demi-finale? Oui, pense l'entraîneur Mauricio Pochettino, mais il y a tout de même quelques consignes à respecter.
Ce n'est pas une question d'hommes, mais plutôt d'attitude collective. On doit avoir une approche différente du match de Barcelone. On doit non seulement défendre, mais aussi jouer avec la possession du ballon, défendre et attaquer. C'est ça le défi.
Mauricio Pochettino avec Julien Froment. Côté compo, c'est confirmé. Pas de Marquinhos côté PSG. Le capitaine laisse son brassard et la défense à Presnel Kimpembe et l'attaque à Kylian Mbappé. Et après, aux Parisiens de jouer, on écoute l'ex-joueur et entraîneur du PSG, Laurent Fournier.
C'est encore du 50-50. Je crois qu'on est à la mi-temps, comme tout le monde le dit, d'un match. Maintenant, il faut rester concerné, concentré. Mais il faut refaire encore les mêmes 90 minutes au parc.
Alors 50-50, pas tout à fait. Voyons le verre un peu plus plein que celui de Laurent Fournier. Le Paris Saint-Germain a 95% de chances de se qualifier, d'après les statistiques, hein, après la victoire 3-2 à Munich. On suivra ça ce soir, en tout cas prise d'antenne dès 20h autour de Lionel Rousseau. Dans le même temps, Chelsea affronte Porto.
Et puis les joueuses de l'équipe de France féminine sont aussi sur le pont.
Oui, alors c'est un malheureux concours de circonstances qui passe les Bleus en concurrence télévisuelle avec le Paris Saint-Germain. À 10 minutes près, le coup d'envoi sera donné au même moment. Les Françaises qui affrontent pourtant une belle affiche, hein, avec les États-Unis, mais c'est un match amical.
En volley, c'est un maître qui rejoint l'équipe de France.
Oui, c'est un peu le Zidane du volley. C'est la France qui l'a choisi d'entraîner pour les Jeux de Tokyo et de Paris. Alors pour vous présenter ce fameux Bernardinho, qui de mieux que celui qu'il a recruté, Éric Tanguy, le patron de la Fédération Française de Volley.
Bernardinho, c'est l'entraîneur le plus titré au monde dans l'histoire du volleyball, puisque c'est un entraîneur qui a gagné 7 médailles olympiques, dont une en tant que joueur et 6 en tant qu'entraîneur, dont 2 médailles d'or. Et c'est aujourd'hui quelqu'un qui a dominé le volleyball mondial en tant qu'entraîneur pendant plus d'une décennie, et aujourd'hui en fait quelqu'un d'indiscutable et un véritable expert de notre discipline.
Éric Tanguy avec Julien Froment. On sent l'immense respect, hein, du président de la FFV qui a donné des objectifs aux Brésiliens lors dans 3 ans aux Jeux Olympiques à Paris.
Ah ouais, c'est donc un entraîneur brésilien qui mènera les Bleus aux Jeux Olympiques en volley. En rugby, pour terminer, Toulon toujours malmené par le virus.
Oui, le match de top 14 entre Montpellier et Toulon de samedi est reporté à cause de plusieurs cas positifs au Covid. Rappelons qu'il y a 10 jours, le RCT avait déjà eu match perdu sur tapis vert, mais en Coupe d'Europe. En 8e de finale, c'était face au Leinster.
Lénaïque Meunier, merci. Europe 1. Il est 6h14 et en ce 13 avril, c'est la journée mondiale du Scrabble, le jeu indémodable. Et quand on pense au Scrabble, on pense forcément à mon invité inattendu du jour. Bonjour.
Bonjour, c'est Pierre Palmade.
Bonjour Pierre Palmade, bienvenue sur Europe 1, le Scrabble, bien sûr l'un de vos sketchs les plus connus, parmi les plus cultes. Il y a, j'imagine, pas mal de vécu dedans. Vous allez nous raconter comment ce sketch est venu, et surtout on va en écouter quelques extraits parce qu'on s'en lasse pas. À tout de suite.
Non Liliane, Ox ça n'existe pas. Oui. Non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot contre triple, mais ça n'existe pas.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h17, Pierre Palmade est l'invité inattendu du 5-7 ce matin à l'occasion d'une journée consacrée au Scrabble. Le Scrabble qui fut votre sketch, l'un de vos sketchs cultes, Pierre Palmade. Sketch dans lequel j'imagine qu'il y a beaucoup de vécu d'anciennes parties.
Beaucoup de vécu, mais c'était beaucoup moins tumultueux que ma partie célèbre dans mon sketch. J'y jouais tranquillement en famille, mais dans mon sketch, je voulais vraiment mettre tous les genres de joueurs qu'on avait, c'est-à-dire celui qui met des mots qui n'existent pas, en l'occurrence c'est ma femme, celui qui met des mots cochons, là c'est le fils, celle qui met des mots intellectuels que personne ne connaît, mais qui existe, c'est la fille, et puis celui qui perd, Et j'adorerais que ça soit le père de famille, le tout-puissant père de famille, qui perde devant ses enfants, ça m'amusait beaucoup.
Lequel de ces personnages est le plus proche de vous ?
Oh bon, c'est le père de famille, et en avançant avec l'âge, je le suis de plus en plus. J'aime pas qu'on remette en question ma position de chef. Alors j'ai pas de famille, hein, j'ai pas de femme et d'enfants, mais je sais que ça m'énerverait de me faire battre par mon fils de 11 ans.
Mais alors Alexandre, qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Non ! Fellation, ça s'écrit pas comme ça ! Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, toi ? Oui, ben c'est pas ici que t'apprends des mots comme ça, hein ! Si, oui, c'est français. Joue pas au con avec moi, s'il te plaît, hein. Toi, tu nous trouves un autre mot, s'il te plaît. Bon, alors, sucre. Oui, t'as oublié le R.
Lequel de ces personnages vous fait le plus rire, Pierre Palmade, aujourd'hui?
Je crois que c'est la femme qui tente des mots complètement fous, comme kawax ou vaquer, des mots qu'elle invente.
On a tous été tentés à un moment d'inventer des mots au Scrabble.
Bah, c'est-à-dire qu'elle trouve qu'elle a des belles lettres, donc elle se dit, tiens, je vais faire des jolis mots avec des belles lettres. Mais elle a juste oublié qu'il faut que ça existe, quoi.
Kawax ! Tu peux nous rappeler la définition de kawax, Liliane ? Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot. Mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. Oui, bah, tu l'as entendu, bah, écoute, ça peut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais, mais en tout cas, en français, ça veut rien dire du tout.
C'est voilà. Toujours le sketch Pierre Palmade qu'on vous réclame le plus, le Scrabble aujourd'hui?
Tout le monde, j'allais dire, pratiquement tout le monde le connaît ou en a entendu parler. Mais sur scène, heureusement, il y en a d'autres qui font largement autant rire. Et puis, il est tellement connu qu'il faut faire attention parce qu'il peut être usé. On l'a tellement joué que les gens le connaissent par cœur et des fois le jouent même mieux que vous. Donc j'entends les phrases déjà dans la salle quand je le joue.
C'était le spectacle On se connaît en 1990. Le Scrabble a fait un peu un retour là l'an dernier au moment du confinement, avec notamment les applications qui permettent de jouer à distance. Vous y êtes mis aussi ? Vous y êtes revenu ?
Non, c'est un souvenir d'adolescence avec mes grands-parents. C'est évidemment le souvenir de ce sketch-là, mais c'était surtout pour mettre à mal mon père de famille tout-puissant.
Vous adorez jouer le père de famille de mauvaise foi qui revient dans un certain nombre de vos sketchs.
Oui, exactement. Et qui est un peu malmené. C'est toujours un peu le principe du théâtre de boulevard, vous savez, c'est que jouait aussi Louis de Funès, hein, où il était le père de famille et il se mettait dans des situations qu'il dépassait. Mais bon, non, mon temps libre, j'avoue que je le passe toujours à essayer d'écrire des nouveaux projets. Voilà, je le consacre à mon métier. Mais je vais pas vous mentir, je suis pas un pro ni un acharné du Scrabble.
Un dernier mot, Pierre Palmade, justement, puisque vous parlez de votre travail et de la scène. Vous serez de retour sur scène. Il y avait une tournée qui était dans les tuyaux avec justement vos plus grands sketchs, dont le Scrabble qui aurait dû avoir lieu l'année dernière. Elle est prévue pour quand ?
Non, cette tournée, je sais pas si elle se remontera. Il y a une autre pièce de théâtre qui s'appelle Assume Bordel que je veux jouer absolument avec mon camarade Benjamin Gauthier. Donc bon, nous on attend le feu vert du gouvernement, hein, pour jouer au théâtre. Et après, je verrai si je joue mon best-of, c'est-à-dire mes meilleurs sketchs, ou si je joue une pièce de théâtre. Je vous tiendrai au courant, promis.
Voilà, et on verra si du coup vous rejouez le Scrabble sur scène. Merci Pierre
si
Palmade.
Ah bah si je joue mes sketchs préférés, je jouerai le Scrabble, sûr.
Et on viendra pour ça.
Surtout que quand j'ai commencé à le jouer, j'avais 20 ans, donc j'imitais un père de famille. Et là maintenant, à 50, j'ai l'âge du père de famille, donc c'est autre chose.
Merci Pierre Palmade d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin.
Je vous en prie, merci de m'avoir rappelé. Au revoir.
Europe 1. Sébastien Krebs.
6h22 sur Europe 1. Le Sénat a adopté en première lecture une version durcie du projet de loi séparatisme après l'ajout d'un amendement de dernière minute visant à permettre de s'opposer à l'ouverture d'écoles sous influence étrangère. En France, Jean Castex défendra tout à l'heure le maintien des élections régionales et départementales au mois de juin. La majorité des maires s'est prononcée pour tenir ces deux scrutins comme prévu. Aux États-Unis, la ville de Minneapolis sous haute tension après la mort d'un jeune homme noir tué par une policière. Le président Joe Biden lance un appel au calme après une première nuit de violence.
Europe 1.
Il est 6h23 et c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche. Chaque jour, une histoire derrière un artiste. Une artiste ce matin qui, avant de devenir une icône pop dans les années 60, a commencé sa carrière dans l'ombre de son père avec un nom. Sinatra, un nom lourd à porter, Omblin, et pourtant Nancy Sinatra a trouvé le moyen de se faire un prénom.
Grâce à des chansons qui l'ont trouvé, Sébastien, c'est ce qu'elle a confié il y a quelques jours au quotidien Libération, des chansons écrites par l'auteur-compositeur Lee Hazlewood. Il va être celui qui va l'affranchir du préfixe fille de.
I was five and he was six, we rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang.
Elle a beau s'appeler Sinatra, ses premiers disques en 1960 ne fonctionnent pas du tout.
Et non, Nancy Sinatra a 20 ans, elle vient de divorcer. Elle s'était mariée très jeune et elle souhaite reprendre sa vie en main. Elle signe alors sur le label de son père, Reprise Records, en lui promettant un tube raté. Sa pop bubblegum ne plaît pas, elle n'est pas rentable et ce n'est pas parce qu'elle est la fille du patron qu'elle ne va pas se faire virer. Voilà donc Nancy Sinatra en sursis.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Sa planche de salut, elle la doit donc à celui Hazlewood, appelé à la rescousse, et à son arrangeur, Billy Strange.
Et ils débarquent tous les deux avec une guitare et quelques mélodies. Certaines seront destinées à être interprétées à deux, comme ce Summer Wine d'ailleurs. Nancy Sinatra aime beaucoup la simplicité des chansons que Lee Hazlewood lui propose, et l'une d'elles lui plaît particulièrement. Il est question de bottes et de rébellion. Son père, Frank Sinatra, dans la pièce à côté, ne perd pas une miette de la conversation emballée. Cette chanson Boots sera un hit à coup sûr.
Sauf que Lee Hazlewood a prévu de la garder pour lui.
Et voilà, Nancy Sinatra va alors se montrer très persuasive. Cette histoire de bottes doit absolument être chantée par une fille, comme si elle sentait déjà qu'elle allait interpréter la chanson phare de la pop culture et l'hymne de l'émancipation des femmes des années 60.
You keep saying you got something for me. Something you call love. But confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'.
La jeunesse américaine se reconnaît dans les chansons de Nancy Sinatra et sa garde-robe aussi participe à la construction de son personnage.
Oui, des bottes en vinyle jusqu'aux genoux, une mini-jupe et cette coiffure blonde vertigineuse, un look ramené d'Angleterre un peu osé, mais qui va contribuer à faire d'elle une icône, à faire d'elle la Brigitte Bardot américaine, en peut-être un brin aguicheuse, le revendiquer et afficher un caractère bien trempé. Sa carrière va essentiellement se concentrer sur la période 1965-1970. Et après ce coup de maître, Lee Hazlewood rejoint le clan familial. Il écrit aussi pour Frank Sinatra et il va produire son duo chanté avec Nancy.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through.
Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Something stupid.
I love.
C'est la seule fois finalement qu'un père et sa fille comme ça ensemble pris la tête des classements américains, Nancy et Frank Sinatra.
Exactement, et c'était le 13 avril 1967. À 80 ans, Nancy Sinatra vient de publier une anthologie baptisée Start Walking qui regroupe 23 de ses plus grands succès. Ça concerne la période de 1965 et début des années 70.
Ambline Roche pour la partition chaque matin en musique. Merci Ambline, à demain. Et Laurent Cabrol, pour une météo bien fraîche encore.
Oui, bien fraîche, et les nuages sont peu nombreux sur la moitié sud, c'est la raison pour laquelle il fait froid, puisque vous savez, les nuages atténuent quand même l'impression, et le froid tout court, sans aller jusqu'à l'impression. Nous avons du moins 4 à Guéret en ce moment, moins 3 à Saint-Étienne, Le Touquet, Belfort, Clermont-Ferrand-Lille, entre moins 1, moins 2, autour de 0 degré à Creil, Châteauroux, Brest, Caen, 2 à Rennes et Strasbourg, 3 en banlieue parisienne, Toulouse et Lyon, 4 à Nancy, 5 à Bordeaux quand même, là ça c'est plus doux, 8 à Marseille, 9 à Nice et 10 degrés à Ajaccio. Alors c'est une journée dans l'ensemble qui sera ensoleillée, enfin on va dire hivernalement ensoleillée, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'effectivement il y aura du soleil, mais bon, on aura toujours quelques petits nuages qui vont venir le contraster et le contrarier. Et nous aurons dans la journée des températures de 10 à 18 degrés, puisqu'il y a une amplitude toujours très grande entre le matin où il fait froid et l'après-midi où, grâce au soleil du mois d'avril, le soleil est bien situé à l'horizon, si je puis dire, ou à la verticale, au zénith, et nous aurons donc entre 9 et 18 degrés, et ce sera quand même notre réconfort du jour.
On va quand même finir par en sortir, Laurent ?
Ben non, parce que le froid va rester. Le froid va rester jusqu'à la fin de semaine. Notre seule chance serait qu'il y ait un petit peu plus de nuages, parce que, comme je disais, les nuages atténuent. Vous savez, on appelle ça la couverture nuageuse. Elle est bien nommée, la couverture nuageuse. Elle vient couvrir le ciel et permettre aux températures de moins s'élever.
Bon, ben on va attendre les nuages alors.
De moins baisser.
À tout à l'heure, Laurent Cabrol, merci.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez au réveil, tout de suite votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
6h30.
Quand je regarde la vidéo et que j'écoute les ordres de l'officier, je crois que l'agent avait l'intention d'utiliser son taser, mais a tiré une balle sur Dante Wright.
Nouvelle bavure policière à Minneapolis aux États-Unis, un jeune homme noir tué par accident. Les autorités craignent des émeutes au moment où se tient dans cette même ville le procès du policier qui avait étouffé George Floyd. L'inquiétude après l'enlèvement de 10 personnes en Haïti dimanche, le portrait de la religieuse et du prêtre français qui font partie des kidnappés. Et puis Marquinhos blessé, le capitaine du PSG ce soir sera Kimpembe pour assurer la qualification en demi-finale de la Ligue des champions de football.
Après le journal, je reçois le virologue Jean-Michel Palot de l'hôpital Henri Mondor. Son regard et ses réponses sur la situation au Brésil, ses milliers de morts par jour, ses 92 souches différentes de variants. Ces variants brésiliens sont-ils des menaces pour nous ? Faut-il boucler nos frontières ? On en parle dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Situation très tendue à Minneapolis, aux États-Unis. La ville est sous couvre-feu et un millier de soldats de la garde nationale sont déployés face à des craintes de débordement. Et ce, après la mort dimanche d'un jeune afro-américain, Dante Wright, tué d'une balle tirée par une policière lors d'un banal contrôle routier.
Alexis Guilleux, vous êtes aux États-Unis, notre correspondant pour Europe 1. La police parle d'un accident en s'appuyant sur les images de la caméra portative de la jante.
Oui, et sur ces images, tout se joue en moins d'une minute. On y voit Dante Wright sortir de sa voiture, interpellé car il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il résiste au moment où un premier policier essaie de le menotter. Il parvient même à remonter dans son véhicule. C'est là que la policière s'approche, sort son arme. Elle hurle qu'elle va utiliser son taser. La balle part. merde, je lui ai tiré dessus, s'écrie-t-elle, comme si elle réalisait qu'elle venait d'utiliser son arme à feu et non son taser. Dante Wright meurt quelques minutes plus tard et la policière a, elle, été placée en congé le temps de l'enquête.
Alors Alexis, il y a bien sûr ce contexte que l'on rappelait. En ce moment même se tient le procès du policier accusé du meurtre de George Floyd l'an dernier dans cette même ville de Minneapolis.
Oui, effectivement, des manifestants se sont à nouveau rassemblés hier soir aux abords des locaux de la police de Brooklyn Center, malgré le couvre-feu décrété jusqu'à ce mardi matin. Foule progressivement dispersée au cours de la soirée grâce à un vaste dispositif policier. D'ailleurs, les mesures de sécurité ont été renforcées au cours de la journée. Cours à distance pour les écoliers, commerces barricadés, rencontres sportives reportées et la garde nationale déployée à quelques intersections majeures. La tension et l'émotion dans cet état du Minnesota alors que le procès de Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre de George Floyd, se tient depuis plusieurs semaines maintenant à une dizaine de kilomètres tout juste du lieu où Dante Wright a été tué.
Alexis Guilleux en ligne de New York pour Europe 1. Merci Alexis. Les protestations de Pékin qui critiquent la décision irresponsable du Japon après l'annonce du déversement prochainement d'1 million de tonnes d'eau issue de citernes de la centrale nucléaire de Fukushima, de l'eau filtrée mais qui contient toujours un peu de tritium qui peut être nocif à haute dose. Les agriculteurs et les pêcheurs japonais de la région s'inquiètent également pour la réputation de leur production.
Après l'enlèvement de deux religieux catholiques français dimanche en Haïti, le parquet de Paris ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration en bande organisée.
Oui, les ravisseurs demandent 1 million d'euros de rançon. Jean-Sébastien Soldani va nous dire qui sont ces Français retenus en otage.
Michel Briand et Agnès Bordeaux sont un curé au grand cœur et une sœur baroudeuse. Tous deux habitués de la violence du quotidien des pays pauvres, sœur Agnès a même déjà été séquestrée. Une attaque à main armée dans son couvent du Guatemala, 3 francs 6 sous dérobés, une arme pointée sur elle pendant 15 minutes. Mais aucune peur, avouera-t-elle après coup. Son seul souci, prier pour les familles défavorisées et avant tout pour ses 3 jeunes agresseurs, un credo que ne renierait pas le père Michel Briand, surnommé le curé des pauvres car depuis plus de 30 ans, c'est auprès de la rue haïtienne qu'il semble avoir fait vœu de dévotion, une dévotion sans faille, puisque lui aussi a déjà été victime de malfrats. En 2015, de petits braqueurs lui tirent 2 balles dans le ventre pour s'emparer de son portefeuille alors qu'il sort d'une banque de Port-au-Prince. Soigné en Bretagne, il trépigne et retourne dès que possible en Haïti, là où ce baroudeur au grand cœur aime traîner sa barbe blanche et ses cheveux longs qui lui valent le surnom de Père Jésus.
L'éclairage de Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. Cette scène assez effrayante hier en plein Paris et dans un arrondissement huppé, le 16e, un homme tué et une femme grièvement blessée par un tireur qui a pris la fuite sur un deux roues.
Guillaume Bier, on sait maintenant que la victime décédée a été identifiée. C'est un homme qui était déjà largement connu des services de police.
Oui, la victime avait déjà été impliquée dans des affaires de meurtre en bande organisée, trafic de drogue et association de malfaiteurs. C'était un homme d'une 30aine d'années, un Français né aux Comores et ayant vécu à Marseille. D'après les témoignages et les constatations, c'est bien lui qui était ciblé par le tueur. Un homme seul, arrivé à bord d'un scooter. Les rares témoins qui ont assisté à la scène décrivent la froideur avec laquelle il aurait exécuté la victime sur le trottoir devant l'hôpital Henri Dunant, touchant également par balle une employée chargée de la sécurité du bâtiment. Un crime commis en plein jour dans un arrondissement chic de la capitale. La piste du règlement de compte de la vengeance est largement privilégiée par les enquêteurs de la brigade criminelle. Aucun lien n'est établi pour le moment avec l'hôpital qui abrite un centre de vaccination contre le Covid.
Guillaume Biet, chef du service police-justice d'Europe 1. La région nantaise, terre de Muguet, recrute à tour de bras chaque printemps pour que la clochette puisse être vendue le 1er mai. L'an dernier, lors du premier confinement, la saison du Muguet avait été très compliquée. Cette fois, c'est tout l'inverse. Et ce, grâce au nouveau calendrier des vacances, il y a une justice. Un changement qui tombe à pic pour les producteurs comme pour les cueilleurs, rencontrés par Charles Guyard pour Europe 1, lesquels doivent entrer en action dans les tout prochains jours.
Ça tombe parfaitement.
Ce qui tombe parfaitement pour Pierre-Louis, ce sont les nouvelles dates des vacances scolaires qui vont permettre à cet étudiant en fac de langue à Nantes d'aller cueillir du muguet et donc de se faire de l'argent de poche.
Sur 5-6 jours, on peut se faire 500 euros, donc c'est déjà très intéressant pour nous qui sommes jeunes.
Ce nouveau calendrier, c'est une aubaine pour les étudiants, mais aussi pour les producteurs de muguet qui n'ont alors eu aucun mal à recruter de la main-d'œuvre, comme Éric Arouette, gérant de Lilival.
Au début, on avait du personnel scolaire qu'à partir du 24 avril. Comme on commence à cueillir vers le 17-18 avril,
Will avoir justement ces scolaires qui vont être précieux pour la cueillette et toute la mise en place. C'est une vraie bénédiction, effectivement. Ouais.
Résultat dès l'annonce des nouvelles dates, les candidatures ont afflué en nombre dans cette exploitation à l'est de Nantes, à l'origine par ailleurs de l'opération Un brin de solidarité en faveur des personnels hospitaliers d'Île-de-France. Ici, on recherchait initialement 500 personnes.
On a même pas loin de 1000 personnes qui sont inscrites sur le site, donc il y a une liste d'attente.
De quoi faire face à d'éventuelles défections liées au Covid. La cueillette des 2,5 millions de brins pourra donc être assurée sans problème, de même que la vente, hein, puisque cette année, contrairement au printemps dernier, les fleuristes resteront ouverts. Saint-Julien de Concel, Charles Guyard, Europe 1.
Allez, venons-en à cette grande soirée foot qui s'annonce ce soir, quart de finale, retour de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit le Bayern Munich, c'est à 21h au Parc des Princes.
Oui, Paris fort de son succès à l'aller 3-2, mais qui devra jouer le match sans son capitaine, le Brésilien Marquinhos, blessé. Mais Julien Froment, Paris qui pourra compter sur un pur produit de son centre de formation, Presnel Kimpembe.
Oui, et l'histoire d'amour avec le Paris Saint-Germain a réellement débuté le 14 février 2017. Un signe, PSG, FC Barcelone, victoire 4-0 et un Presnel Kimpembe impérial pour son tout premier match de Ligue des Champions. Le natif d'Erani dans l'Oise, pur produit de la formation parisienne, poursuit son ascension. Champion du monde avec l'équipe de France en 2018, titulaire indiscutable à Paris. Une fierté pour le désormais vice-capitaine du club.
J'aime les responsabilités, le fait de pouvoir porter le brassard, c'est beaucoup de confiance de la part du club comme du coach. Et j'essaye de donner mon énergie positive à toute l'équipe.
Ambianceur dans le vestiaire, indiscutable sur le terrain, Presnel Kimpembe, un joueur attachant qui a séduit son entraîneur Mauricio Pochettino.
C'est un joueur maison. Il incarne les valeurs et l'identité du Paris Saint-Germain. Un garçon qui a d'énormes qualités. Et je crois que c'est un joueur très important pour notre équipe.
Et en l'absence du capitaine Marquinhos, ce soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain aura besoin d'un immense Presnel Kimpembe pour résister aux assauts de l'attaque du Bayern Munich.
Julien Froment, on vous retrouve ce soir aux commentaires de ce match, émission spéciale sur Europe 1 dès 20h autour de Lionel Rousseau.
Voilà, il paraît que le PSG a 95% de chances de se qualifier, mais ça c'est les statistiques.
Attention.
Et le sport, ce n'est pas toujours les statistiques. Merci, c'était le journal de François Geffrier. Il est 7h20.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille mon invité dans le 5-7 ce matin, c'est le professeur Jean-Michel Paulotsky. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous êtes virologue et chef du pôle de biologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, tout près de Paris. La situation au Brésil, 3 à 4 000 morts par jour, un variant hors de contrôle, une centaine de souches différentes déjà identifiées. On entend certains spécialistes craindre que ce pays ne devienne une sorte de laboratoire de variants à ciel ouvert. Est-ce que c'est une quatrième vague potentielle qui est en train de couver au Brésil ?
Alors aujourd'hui, c'est très difficile de savoir si la situation brésilienne va induire une quatrième vague mondiale. C'est la réalité que l'infection est hors de contrôle dans le pays, pour des raisons qui sont essentiellement politiques d'ailleurs, de non-application de mesures qui ont été appliquées avec succès dans d'autres régions. Maintenant, tout va dépendre de la capacité de ces variants à s'exporter. Et on sait que les autres pays peuvent se protéger. Et puis, une fois qu'ils sont exportés, de leur capacité à rentrer en lutte avec les variants qui sont déjà présents dans ces pays. Et ça, ce n'est jamais gagné, puisque nous avons également partout des variants très, très efficaces. Et puis, bien sûr, d'un facteur supplémentaire qui est l'étendue de la vaccination.
Alors, on sait que nous, en France, on est confrontés très massivement aux variants britanniques. Que sait-on du niveau de circulation de ce variant brésilien chez nous ?
Alors, chez nous, pour l'instant, le variant brésilien a été trouvé. Il circule, mais à très bas niveau, puisque sur les dernières enquêtes flash, on est autour de 0,1% des nouveaux cas infectés. Donc c'est une proportion qui est très faible. Il faut bien comprendre que les variants qui sont présents sur un territoire luttent les uns contre les autres. Et on voit bien aujourd'hui que le variant britannique, dans un contexte qui est un contexte de poussée épidémique avec une vaccination qui est encore débutante, ce variant britannique est en train d'étouffer toute la compétition. Il représente environ 85% des nouveaux cas aujourd'hui, ce variant britannique. Et puis on a à peu près 5 à 6% de variants sud-africains et quelques autres variants minoritaires qui attendent leur heure. Mais bien sûr, avec les modifications qui vont être induites par la vaccination, on va pouvoir avoir une modification de cet équilibre et une diminution du variant britannique qui est bien sensible au vaccin et peut-être l'émergence ou la montée d'autres variants.
Oui, parce que ce qu'on sait en revanche, c'est que ce variant brésilien est plus résistant aux anticorps que nous avons si nous avons déjà été malades ou aux vaccins ?
Oui, alors plusieurs variants qui circulent en France sont plus résistants, je dirais plutôt moins sensibles à l'action de la vaccination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être bien neutralisés, ils ont besoin de taux d'anticorps neutralisants plus élevés que les autres. Donc les personnes qui seront très bien vaccinées, qui auront répondu avec des taux d'anticorps très élevés, seront très largement protégées contre la très grande majorité des variants. Mais bien sûr, pour les personnes qui répondent un peu moins bien, des personnes qui auront été primo-vaccinées mais qui n'auront pas reçu la deuxième dose, des personnes un peu immunodéprimées, les plus âgées, on va pouvoir avoir une moins grande efficacité de la vaccination contre certains variants. Et ces variants, je pense aux variants brésiliens, aux variants sud-africains, le variant Rimondor que nous avons décrit, quelques autres, ces variants, dans ce cas-là, peuvent prendre le dessus, c'est-à-dire commencer à circuler parmi la population de vaccinés, pas nécessairement induire des formes très graves, mais être présent. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir qu'on surveille dans les semaines et dans les mois qui viennent, cette bascule qualitative des variants circulants au moment où la vaccination va devenir vraiment prégnante dans le pays.
Professeur Pawlowski, quand on vous écoute, on comprend que le risque est tout de même important de voir ce variant se développer. On voit que les pays d'Amérique du Sud ont fermé leurs frontières avec le Brésil, le Portugal aussi, mais pas la France. Il y a encore des avions qui viennent du Brésil et qui atterrissent en France et aucune quarantaine n'est imposée à ceux qui viennent du Brésil. Uniquement un test PCR et une déclaration sur l'honneur. Est-ce que la France est imprudente ?
Imprudente, je ne sais pas. On a vu avec l'expérience du variant anglais que les mesures de fermeture en général survenaient trop tard et qu'aucune frontière n'était parfaitement perméable. Fermer les frontières, ça peut être une option, mais il y a des variants dans tous les pays du monde et donc on ne pourra jamais fermer complètement les frontières. En revanche, les mesures de quarantaine un peu strictes et surveillées pour des personnes qui viennent de pays riches en variants, ça peut être quelque chose d'intéressant et qui permet au moins de freiner l'arrivée du virus. Maintenant, comme je le disais, on a 0,1% de virus variant brésilien qui circule en France, donc le virus est déjà là. La question, c'est plutôt sur les autres sous-types de ce variant qui ont été identifiés dans un pays qui est en pleine explosion épidémique.
Oui, parce que plus le virus circule, et il circule massivement au Brésil, plus il continue de muter, ça veut dire qu'on va voir forcément émerger de nouveaux variants et qui peuvent être de plus en plus résistants.
Alors c'est vrai au Brésil, c'est vrai en France aussi, c'est vrai dans chaque pays où on est en poussée épidémique. Chaque fois qu'on a une poussée épidémique, un grand nombre de cas, on va avoir des mutations qui vont apparaître et certaines vont conférer au virus des avantages qui vont leur permettre de perdurer. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il semble que le répertoire de mutations possibles soit limité, c'est-à-dire qu'on puisse pas avoir n'importe quelle mutation et donc que ce virus ne va pas muter à l'infini puisque de tous les variants qu'on connaît, c'est souvent les mêmes mutations qui surviennent à des endroits très différents du monde, mais dans le désordre. Donc les variants ont souvent des mutations en commun, et il y a un moment où tout ça va se stabiliser, où on aura une convergence épidémique, et à ce moment-là, on pourra développer de nouvelles générations de vaccins qui seront des rappels et qui seront efficaces non seulement sur les souches initiales, mais sur ces souches mutées. Donc voilà, c'est une course entre l'arrivée des variants, leur diffusion et le développement de nouvelles doses de vaccins. Mais c'est une course qu'avec les vaccins, en particulier ARN, on est en mesure de gagner relativement facilement.
Ce que vous nous dites ce matin, et c'est ce qu'on avait un peu déjà entendu, c'est que cette campagne de vaccination que nous vivons ne sera pas la seule. Il va falloir la reconduire année après année peut-être.
C'est très probable. Tout ça, c'est le prix de la sécurité. Ce sont des vaccins dont on sait aujourd'hui qu'ils sont sûrs, qu'ils sont bien tolérés, qui sont très efficaces sur un certain nombre de souches. Évidemment, si le virus change, comme on le fait pour la grippe, il faudra revacciner. Est-ce qu'il faudra revacciner tous les ans, tous les deux ans, tous les cinq ans? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Mais très certainement, il y aura de nouvelles doses de vaccins qui vont s'installer de façon tout à fait naturelle dans notre programme vaccinal, comme les autres vaccins qu'on connaît depuis très longtemps.
On apprend que, par une étude israélienne, que le vaccin Pfizer, par exemple, est moins efficace, lui aussi, contre le vaccin sud-africain. On a la Haute Autorité de Santé qui recommande de ne pas utiliser l'AstraZeneca en Moselle, où ce variant circule plus qu'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas déjà en retard avec nos vaccins d'aujourd'hui ?
Comme je vous le disais, c'est une course, personne n'est en retard, on court à petite foulée le virus d'un côté, les vaccins de l'autre, et c'est normal, et c'est toujours comme ça. Le virus est rentré dans la population comme dans du beurre sans aucune résistance, on a développé très rapidement un vaccin contre la première souche qu'on connaissait avec une très bonne efficacité là où les gens ont été vaccinés. Le virus réagit en développant des variants. Il se réveille pas le matin en se disant « tiens, je vais développer un variant ». C'est juste une évolution, une sélection génétique naturelle. Et nous, nous allons surréagir en adaptant nos vaccins dans les mois qui viennent. Puis on va arriver au bout de quelques mois, peut-être quelques années, mais sûrement quelques mois, à un état d'équilibre où on aura des vaccins qui contrôleront la grande majorité des cas. Je veux vous rappeler que ce qui est un...
Europe 1, Sébastien Krebs.
7h10 sur Europe 1, les élections régionales et départementales auront bien lieu les 13 et 20 juin. Le gouvernement se range finalement à l'avis des maires consultés ce week-end. 56% d'entre eux le souhaitent. Le gel qui a ravagé des centaines de milliers d'hectares ces derniers jours est probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début de 21e siècle, déclare le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie, qui envisage la création d'un fonds exceptionnel. Et puis des matchs de basket annulés en NBA, le couvre-feu et la garde nationale déployée à Minneapolis. Police aux États-Unis risque d'émeute. Un homme noir de 20 ans a été abattu dimanche d'une balle par une policière qui pensait faire usage de son taser. Bonjour Anis Hamida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour est un clavier. Un clavier pour ordinateur, un clavier un peu spécial parce qu'il permet de ne plus taper seulement des lettres, mais carrément des mots, des phrases entières.
Oui, d'ailleurs, c'est beaucoup plus logique. Hein, on pense avec des mots, avec des phrases et pas au ralenti, là, lettres.
Ça fait beaucoup de touches quand même. Si vous mettez tous
les... Bah oui, c'est le problème, c'est comment on traduit ça sur un clavier, parce qu'on ne va pas mettre, comme vous dites, autant de touches que de mots, ça n'a aucun sens. D'où cette idée de s'inspirer du piano et de faire des accords quand on veut écrire des mots. Donc il faut s'imaginer un clavier AZERTY parfaitement normal. Quand on l'utilise touche par touche, aucune différence, on tape ces mots lettre par lettre, mais quand on appuie sur plusieurs touches en même temps, quand on fait un accord, eh bien on écrit des mots, voire même des phrases entières, ce qui permet de taper beaucoup plus vite et au passage d'éviter des fautes de frappe.
Alors, si c'est comme au piano, il faut apprendre un peu à l'utiliser, cette chose. Ça doit être un peu plus compliqué quand même.
Bah, pas forcément, parce qu'encore une fois, c'est un clavier qu'on peut utiliser parfaitement normalement et se contenter d'un ou deux accords qu'on aura personnalisés. Par exemple, vous pourriez avoir, vous, la combinaison SBK pour écrire Sébastien Krebs et moi, AMB pour écrire Anis Hamida, BO pour bonjour, CO pour cordialement, etc., etc. Donc, on peut apprendre à son rythme et ajouter des combinaisons au fur et à mesure. C'est très, très malin et c'est une idée de la start-up Cara Corder.
Et on appuie plusieurs lettres en même temps.
Oui, oui. D'accord.
C'est déjà disponible ?
Alors, ça arrive dans les semaines qui viennent et c'est une technologie qui pourrait même, peut-être à terme, être intégrée dans tous les claviers du marché. Comme ça, on pourrait enfin taper à la vitesse de la pensée. Parce qu'on le rappelle, le clavier AZERTY a été conçu à l'origine pour ralentir la frappe et l'alterner d'une main à l'autre. Tout ça, pourquoi ? Pour éviter que les marteaux des machines à écrire finissent par s'emmêler. Donc, il était temps de trouver quelque chose d'un petit peu plus moderne.
Oui, on éloignait les lettres les plus fréquentes pour pas qu'ils se tapent dessus.
Exactement.
Les petits marteaux des machines, on a toujours les mêmes. Mais on peut faire les accords sur le clavier actuel, du coup. C'est pas forcément
le clavier actuel, et à chaque fois qu'on fait un accord sur le clavier actuel, il va considérer qu'il y a une lettre qui a été tapée avant une autre. Il faut changer un petit peu le clavier.
Très bien. L'innovation du jour avec Anis et Hamida, 6h52. Et nous commençons ce tour du monde en Italie ce matin. Bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse à Rome ?
Eh bien ici, c'est une bourde commise par la maire de Rome et dont se moque la presse italienne. Dans une vidéo partagée sur son compte Facebook, raconte le Corriere, Virginia Raggi fait la promotion d'une compétition de golf qui aura lieu dans la capitale. Sauf que dans le montage réalisé par son équipe de communication, ce sont les images des arènes de Nîmes qui apparaissent à la place du Colisée. C'est impardonnable, s'indigne le journal. La vidéo a été rapidement modifiée, mais le mal était fait, écrit Il Fatto Quotidiano. Raillerie et parodie s'enchaînent sur les réseaux sociaux. Mais ça ne fait pas rire les Romains, prévient la Stampa. L'édile de Rome, qui ne sait même pas reconnaître le Colisée, symbole le plus célèbre de la ville éternelle, c'est zéro en histoire et en géographie, dénonce ses détracteurs dans le Messaggero. C'est une sacrée blague et quelle honte, écrit le Giornale. Le quotidien de droite estime qu'avec cette gaffe, il y a de quoi s'interroger sur cette cadre du mouvement 5 étoiles qui compte justement être réélu maire de Rome cette année.
Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Direction le Japon à présent. Rebonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sébastien.
Quel sujet fait les gros titres à Tokyo ?
La campagne de vaccination du grand public, qui débute seulement ici. Et ce sont d'abord les personnes âgées de plus de 65 ans que l'on va immuniser contre le coronavirus. Le Japon est très très en retard, c'est phare le quotidien Sankei Shimbun. 32 pays de l'OCDE nous ont devancés à calculer le Yomiuri, lui aussi assez énervé. Pour le Mainichi, vu la violence de la quatrième vague de l'épidémie que nous subissons depuis un mois, il y a tout lieu d'être inquiet. D'autant que, comme rappelle le Asahi, le Japon est le pays qui compte le plus de seniors parmi sa population. 29% des Japonais ont 65 ans ou plus. Et puis, ce chiffre donné par la télé publique NHK, à ce stade, la ville de Tokyo n'a reçu que 3900 doses de vaccins du ministère de la santé, alors qu'elle compte 14 millions d'habitants, dont 5 millions de seniors. Dès lors, la presse est unanime, ces vaccinations si tardives, en plus, elles commencent mal.
Bernard Delattre au Japon, et nous terminons ce matin en Allemagne. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui occupe les médias à Berlin ?
Ce matin, ce qui passionne la presse allemande, c'est la guerre ouverte pour le pouvoir, titre le Bild, qui revient comme tous les autres journaux sur le duel des conservateurs. La CDU-CSU doit choisir dans les prochains jours son candidat pour succéder à Merkel et la famille se déchire entre deux présidents de région, le rhénan Armin Laschet et le bavarois Markus Söder. La saucisse n'est pas tranchée, résume Die Zeit. Hier, les deux prétendants ont reçu le soutien de leurs fédérations respectives. Aucun ne veut abandonner le terrain. Alors qui a les meilleures chances pour mobiliser les électeurs, demande le Spiegel. Si on en croit les sondages, c'est le bavarois, rappelle Die Welt, toujours très sûr de lui, du haut de son mètre 94, il est trois fois plus populaire. Sauf que l'important, c'est la capacité à former une coalition, note le Taz. Et à ce jeu-là, le rhénan Laschet, tout en rondeur et en compromis, ne présente aucune faiblesse.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Europe 1. 7h05, Mathieu Béliard à suivre, à tout de suite. Très bon réveil, très bonne journée. Je vous retrouve demain avec toute l'équipe du 5-7. Mathieu Béliard est installé, c'est parti. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Europe 1, mardi 13 avril 2021. Le monde a changé, on va vous le raconter. Le monde, oui, parce qu'on va vous faire voyager ce matin sur le front de l'épidémie. L'Angleterre qui sourit, nous sommes à Londres, c'est dans le journal à suivre, et une toute autre ambiance. Au Brésil, ce matin, la situation est catastrophique avec une centaine de mutants et des milliers de morts chaque jour. Comment se protéger ici? C'est aussi la question. Il faut que les choses changent en Haïti, le regard international de Vincent Hervouet après l'enlèvement de religieux, dont deux Français. Et dans le journal de 8h, le phénomène des gangs à Port-au-Prince. 1200 personnes enlevées en Haïti l'an passé. Et puis, les États-Unis avec un nouveau jeune afro-américain tué par une policière à Minneapolis en plein procès de Derek Chauvin qui avait étouffé George Floyd. La tension ravivée. Puis enfin, autour du monde, nous sommes ce matin aussi au Japon, où l'on va rejeter dans l'océan les eaux contaminées de Fukushima. Voilà quelques éléments du programme. Il est 6h59 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu, avec une météo qui, ma foi, est assez froide encore ce matin. Je dis assez parce que sur la moitié nord, il y a un peu plus de nuages qu'hier et ces nuages forment comme une sorte de couverture. Ils maintiennent la chaleur d'hier, ils la maintiennent sur le sol, de sorte qu'il fait un petit peu moins froid. Mais enfin, n'arrivons pas. Moins 3 à Vichy et Saint-Etienne en ce moment, moins 2 à Clermont-Ferrand, moins 1 à Lille, 0 à Rouen, 1 à Brest, 2 à Rennes et Nantes, 3 en banlieue parisienne, à Lyon, Toulouse et Cognac, 5 à Bordeaux, 6 à Andailles et 8 à Marseille. Dans la journée, les températures vont bien grimper grâce à l'ensoleillement, entre 10 et 18 degrés. Et puis le soleil est au zénith en ce moment, enfin presque. Et en ce qui concerne la couleur du ciel, sur la moitié nord, donc si vous êtes en Alsace, Franche-Comté, en Côte d'Or, dans le parc régional de Lorraine, vous êtes dans des secteurs où il y a quelques gouttes de pluie, parfois verglaçantes, parfois même quelques flocons de neige. Mais enfin, c'est pas grand-chose, ça va s'en aller. De sorte que cet après-midi, tout le monde sera logé à la même enseigne, à l'enseigne d'un temps souvent éclairci, avec peu de nuages, avec du soleil. Et ce sera la seule bonne nouvelle de la journée, parce que malheureusement il va faire encore froid dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, très bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Pardon, Mathieu Béliard.
Pardon monsieur. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Hein.